Retrouve les enregistrements des causeries du Lysignol 8. Page dédiée sur www.libradio.org. Tu peux également proposer des thèmes, préparer collectivement un repas, venir picorer des mets et des idées. Bienvenue à toutes et à tous.
A toda madre. A un desmadre.
Il nous reste encore une personne à écouter, donc Pascal,
je vais essayer de faire trop long.
Trop court. Je ne vais pas commencer par le bouquin parce qu'il n'est pas directement lié à mai 68, il est plutôt lié à mai 2018. D'abord sur mai 68, ça a été dit, je crois qu'il faut le répéter, c'est pas une révolution, c'est le moment d'un changement social, politique, culturel qui a commencé 10 ans avant, qui se termine 10 ans après. Moi, je viens d'un milieu d'anciens militants du Parti du Travail, qui avaient quitté le Parti du Travail en 1952 pour suivre Léon Nicole dans une tentative de créer un nouveau parti de gauche. Tous les 5 ans, il y a une tentative de créer un nouveau parti de gauche. Mais c'est un milieu qui est resté profondément imprégné de l'esprit qui imprégnait une bonne partie de la gauche à Genève, comme en France ou en Italie, après la fin de la guerre mondiale. Je suis né en 52, donc j'avais 16 ans, 68. Alors c'était juste une incidente aussi pour rappeler l'importance qu'ont eu le Parti communiste français, le Parti communiste italien dans la formation politique et culturelle d'une bonne partie de la classe ouvrière. C'est la première fois que des gens sont allés à un concert classique, à une représentation théâtrale. Un concert classique ou une représentation théâtrale, c'était par des billets fournis par les municipalités communistes en France ou en Italie, par les billets fournis ici par la Vivo. Elle n'existait pas encore sous forme de la Vivo, mais enfin par des actions menées par les partis communistes et les syndicats qu'ils contrôlaient quand ils en contrôlaient. Et donc, moi je suis dans un milieu qui est. Je suis incapable de dire de donner mon premier souvenir politique parce que ça doit être intra-utérin. Donc il n'y a pas un moment où je me suis éveillé à la politique. J'ai baigné dedans tout le temps, d'autant que mes parents recevaient déjà dans le début des années 60 des militants africains, algériens pendant la guerre d'Algérie, oui. Chiliens comme Violeta Parra et sa famille au début des années 60. Et donc là aussi, il y a une tradition qui s'est perpétuée. On ne comprend pas grand-chose à mai 68 si on oublie que la génération qui a fait 68, donc la génération avant celle de Jean et de moi, est une génération qui s'est ouverte à la politique par la guerre d'Algérie en France. Et d'une génération qui, en Italie, s'est ouverte à la politique avec les souvenirs de la résistance. Et puis on ne comprendrait pas grand-chose non plus si on oublie qu'en Europe, en 68, il y a encore 4 dictateurs fascistes. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, 3, l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Franco est encore au pouvoir, Salazar en 68, je crois, il est encore au pouvoir, ou c'est déjà Caetano.
75.
Non, en 75, c'est Caetano. Le régime de Salazar. Et puis en Grèce,
c'est des colonels.
Et en Grèce, c'est des colonels. Donc on est encore dans les retombées du fascisme, de la lutte antifasciste. C'est une bonne partie des discours que tiennent l'extrême gauche, la gauche révolutionnaire, en particulier en France, est imprégnée de souvenirs de la résistance. Le champ de lutte de la gauche prolétarienne française, c'est « nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe ». On est dans une rhétorique de résistance, en même temps que dans une rhétorique qui confond Paris en 68 avec Pétrograd en 17 ou avec Barcelone en 36 quand on est à Nard. Donc il y a un malentendu au départ, hein, puisqu'on a deux mouvements parallèles qui se rejoignent pas, un mouvement étudiant qui se veut révolutionnaire et un mouvement ouvrier en France qui est profondément réformiste et qui obtient ce qui revendique les augmentations de salaire, des droits syndicaux nouveaux, enfin, les accords de Grenelle. C'est deux mouvements qui se rejoignent pas. Donc moi, il faut poser 68 comme le moment d'une évolution de 20 ans. Et on en sort avec la grande crise du milieu des années 70, où tout commence à se rétracter. Et on finit au début des années 80 avec les années fric. Sur le mai 68, sur la Suisse, en mai 68, on est quand même, effectivement, ça a été, Jean l'a rappelé tout à l'heure, on est dans un pays qui a échappé à tout ce que les pays voisins ont vécu dans les années 30 et dans les années 40, avec un non-renouvellement des élites politiques, avec un non-renouvellement des discours politiques. Mais en même temps, à Genève, on est dans une espèce de péninsule bizarre, avec des comportements, des réflexes bizarres aussi, des traditions bizarres. La tradition de la gauche genevoise, ce n'est pas la tradition de la gauche vaudoise, ni la tradition de la gauche baloise. Et là aussi, on se trimballe des souvenirs des années 30. Au passage, on vient d'apprendre que la condamnation des dirigeants du Parti socialiste en 1933 ne sera pas levée par le Parlement fédéral, parce que Léon Nicole, Jacques Dicker et les autres ont été condamnés dans le respect des règles de l'État de droit en 1933. Donc c'est bien à cause d'eux qu'il y a eu, c'est bien à cause des socialistes, des antifascistes, des anarchistes, des communistes, qu'il y a eu 12 morts à plein palais en 1933. C'est pas du tout parce que l'armée a tiré dessus, c'est parce que les agitateurs payés par Moscou ou par on ne sait qui ont manipulé. Hein, il fallait quand même le faire en 2018.
Israël dit la même chose pour Gaza.
Oui, mais Gaza, c'est plus récent. En 2018, la condamnation des leaders de la gauche genevoise de 1933
n'a pas été
levée. Sur le bouquin, en fait, il ne parle pas de mai 68, il parle de l'état de la gauche en général en 2018. C'était une tentative de réponse à une question qu'on me pose régulièrement, mais qu'est-ce que tu fous au PS? C'est aussi une question que je me pose régulièrement aussi d'ailleurs, mais...
Tu as répondu, je continue encore une année.
Oui, je réponds chaque année, je continue encore une année.
C'est-à-dire, comment le PS te supporte? C'est ça la vraie question.
Mais ça, c'est la question que vous posez à lui, qui vous posez à lui. Brièvement, moi, j'ai adhéré au PS en 77. Qu'est-ce que c'est la gauche à Genève en 1977? C'est les derniers vestiges des groupes Mao. C'est le Parti du Travail qui est déjà rentré dans le début d'une sénescence, qui ne sera pas accélérée, qui est longue, mais il y a encore le Parti du Travail. C'est la LMR encore, qui est a priori le dernier groupe de gauche révolutionnaire qui a un minimum de consistance. C'est les groupes anarchistes, mais qui ne sont pas vraiment des organisations politiques. On va parler avec Ivar, qui ne sont pas vraiment des organisations politiques au sens où l'entend ni la LMR, le Parti du Travail ou le Parti Socialiste. Et puis c'est le PS qui a, après 68, récupéré le discours, une partie du discours 68, comme en France d'ailleurs. Le PS de Mitterrand, cynisme absolu,
qui entre en pacte
se donne pour programme un slogan rimbaldien, changer la vie, récupère une bonne partie des militants 68ards et post-68ards, et tient un discours qui est directement inspiré de 68, et à Genève, c'est la même chose. Alors le choix, il n'était pas pour moi d'adhérer au PS ou pas, c'était d'adhérer à un parti politique ou pas. Parce que je viens plutôt d'une tradition anarchiste, quoique d'une famille militant communiste. Et le refus politique des traditionnels des anarchistes, c'est le parti politique. C'est l'État comme structure de domination, mais c'est le parti politique en tant qu'organisation politique est quelque chose à refuser a priori. Il faut adhérer à un syndicat, il faut être militant syndical. Parce que le syndicat peut préfigurer la société à venir, et que dans le syndicat on retrouve les travailleurs en tant que travailleurs et pas en tant que porteurs d'une idéologie ou d'un projet politique. Mais il ne faut surtout pas adhérer à un parti politique, parce que l'objectif du parti politique, quoi qu'il en dise, c'est forcément le pouvoir. Ça avait fait des débats furieux au sein des anarchistes espagnols au moment où s'est créée la Fédération anarchiste ibérique à partir du syndicat anarcho-syndicaliste, la CNT. Parce qu'on a reproché à ces anarchistes-là de créer une organisation politique, ce qui est à peu près une forme de trahison suprême. Donc la question, c'est est-ce que j'adhère ou pas à un parti politique? Et à partir du moment où je réponds, bah oui, je vais adhérer à un parti politique parce que c'est quand même plus efficace que les beuveries de fin de soirée avec les copains. D'ailleurs, ça ne les exclut pas, en plus.
Non.
Des beuveries de fin de soirée, mais les partis politiques ne sont pas exclusifs l'une de l'autre. Alors qu'est-ce qui reste comme parti politique? Il reste le Parti du Travail, d'où mes parents étaient issus, puis je n'avais pas envie de me retrouver au Parti du Travail, d'autant qu'il était déjà en état de déliquescence profonde. Et puis que lui non plus n'avait rien compris à 68, hein, et qu'il avait réprouvé 68. Je me souviens des articles de Jean-Vincent dans la Voix ouvrière au moment du début du centre autonome en 1971, et des articles de Jean-Vincent sur la... Parce qu'évidemment, je lisais la Voix ouvrière. En 68, non seulement il ne comprenait rien, mais il réprouvait le théâtre alternatif pour le théâtre haut investi, le temple protestant des partis pour y jouer Roméo et Juliette à moitié à poil, les tréteaux libres, c'était pas le théâtre haut, c'était les tréteaux libres. Et il y a eu des articles furieux dans la Voix ouvrière, qu'est-ce que c'est que ces guignols, c'est pas les tréteaux libres, c'est les tréteaux libertins, ce qui pour Vincent devait être une injure suprême. Donc on a des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe, qui condamnent ce qui se passe et qui en restent à la conception qu'ils ont toujours défendue depuis les années 20 et depuis les années 30 du rapport entre la culture et la politique. Bref, après élimination, il n'est resté comme organisation politique à laquelle je puisse adhérer, il n'est resté que le PS, parce que c'était en fait la seule organisation où j'avais l'impression de pouvoir faire ce que je veux. Ce n'était pas qu'une impression d'ailleurs. Donc je suis au PS depuis 77. Sur 68, moi j'ai 50 ans après, on peut se rendre compte de nos propres illusions sur ce mouvement-là. Bon, moi j'avais 16 ans, je commençais un apprentissage, je venais de me faire virer du site d'orientation, je ne pouvais pas encore faire, j'étais entre le site d'orientation et la clairière. Je venais de me faire virer du site d'orientation, je n'avais pas encore foutu le feu à la mairie de Montbled, donc je n'étais pas encore à la clairière.
La
donc, mai 68, c'est oui, j'habitais c'est à Audet à l'époque. Donc, le maire d'Audet s'appelait Vélozère, ce qui est une excuse,
c'est
une excuse pour expliquer pourquoi il était nécessaire de foutre le feu à la mairie. Donc, j'avais 16 ans en 68, donc je me trouvais dans les images de 68 comme un poisson dans l'eau, c'est des images qui me... En plus, ça renvoyait, il y a toute la mystique de la barricade, ça fait penser à 48, à la commune, il y a tout le discours, et puis il y a un certain nombre de personnages, pas inintéressants en tout cas télévisuellement, quoi, même si ce qu'ils sont devenus par la suite est un peu plus contestable, du genre de Cohn-Bendit, qui renouvelle un peu l'image du militant politique. Militant politique, dans la tradition familiale, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et militant politique africain ou militant politique algérien, que mes parents recevaient et hébergeaient plus ou moins clandestinement, c'était aussi des gens extrêmement sérieux. Et puis là, on arrive.
Et puis qui risquait gros aussi.
Et puis qui risquait un peu plus que ce que finalement risquaient Claude Mélique, Jesmar ou Sauvage, ou qui risquaient leur carrière. Qui risquait un peu de prison, qui risquait l'expulsion pour une maillite, mais qui risquait plus leur peau. On a là, c'est un décalage qu'on a traîné longtemps, ça, nous les 68 ans plus ou moins âgés, entre les symboles qu'on cultive, les références qu'on a, qui sont en grande partie des références du 19e siècle, des références du 20e siècle, et puis la réalité dans laquelle on fonctionnait. À 68, on n'est plus dans la société. Il y a une illusion lyrique, 68 tard, qui est une illusion romantique, et qui a à la fois empêché pendant longtemps de comprendre ce que c'était que 68, et puis qui nous empêchait en 68, nous, de comprendre le monde dans lequel on vivait. Maintenant, l'héritage de 68, puis ça aussi, ça j'y fais allusion dans le bouquin, il est extrêmement ambigu parce qu'il on l'a qualifié de libéral libertaire, ce qui n'est pas une mauvaise qualification. Après tout, le côté libertaire, c'est l'émancipation individuelle et l'émancipation collective, dont l'émancipation des femmes, l'émancipation des homosexuels, l'émancipation, les luttes pour les immigrants, le desserrement de tous les carcans dont on a parlé, qui étaient les carcans sociaux et les carcans culturels de la société des années 50 et des années 60. Et là, effectivement, le mai 68, et ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu après, ça a quand même correspondu à des victoires. On est dans une société beaucoup plus libre, on est individuellement beaucoup plus libre qu'on pouvait l'être dans les années 60. Beaucoup plus libre, mais peut-être aussi beaucoup plus aliéné, ce qui n'est pas forcément aussi contradictoire qu'il y paraît. Maintenant, ça c'était l'aspect libertaire. Puis l'aspect libéral, c'est qu'en desserrant tous les carcans, on a vraiment desserré tous les carcans, y compris les carcans qui étaient les carcans de conscience collective, de mobilisation collective et de référence collective. Donc, c'est, et ce desserrement de tous les carcans fait que l'individu se retrouve seul face au pouvoir économique ou face au marché. Il n'y a plus de syndicats de masse, il n'y a plus de partis de masse, il n'y a plus de mouvement de masse qui puisse faire contre... Il n'y a plus de contre-société. Le mouvement ouvrier dans les années 30 et même jusque dans les années 50, il fonctionne un peu comme une contre-société. Vous avez en France et en Italie, moins en Suisse, des institutions sociales qui sont créées par les syndicats et par les partis communistes et dans lesquelles vous pouvez vivre de votre naissance jusqu'à votre mort. Des crèches communistes, des crèches socialistes en Allemagne sous la République de Weimar, des crèches, des maternités syndicales, des crèches syndicales, des écoles syndicales, des logements syndicaux, une assurance syndicale, des hospices, des homes de retraités syndicaux et des assurances syndicales pour les obsèques. Donc du début de la conception par vos parents militants à vos obsèques par vos enfants militants, vous êtes dans une contre-société, vous fréquentez des camarades militants syndicaux, des camarades militants du parti, des camarades militants des organisations culturelles et sportives liées aux syndicats ou au parti. Ça a complètement disparu. On est dans un moment d'atomisation complète des parcours politiques et des parcours syndicaux, dans un moment où il n'y a plus de contre-société. Il y a des lieux préservés, mais il n'y a plus de contre-société qui fonctionnerait comme une alternative. Et c'est aussi un des héritages de 68. Alors la question, ça répond pas à la question « qu'est-ce que tu fous au PS ?» Ça répond plutôt à la question « où est-ce que je serais ailleurs si je n'étais pas là ?» Avoir des poids avec les copains,
ça si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer.
Personne n'aurait une idée aussi idiote. À la question « qu'est-ce que tu fous au PS ?» il n'y a pas de réponse. À la question « qu'est-ce que tu fous dans un parti politique ?» la réponse, c'est pour avoir des informations, pour avoir quand même quelques combats en commun. Et puisqu'on a aussi appris de 1968, c'est à se méfier des sectarismes et des patriotismes d'organisation, du fait que pendant des années, les organisations se sont au moins autant combattues les unes les autres qu'elles ont combattu ceux qu'elles définissaient comme leur ennemi commun. L'ennemi principal du Parti du Travail à partir de 68, ça a été les gauchistes. L'ennemi principal de telle organisation maoïste, c'était l'ennemi principal du CLP, c'était Émigration et Impérialisme, dont l'ennemi principal était le Parti communiste de Suisse marxiste-léniniste, né du groupe Octobre, dont l'ennemi principal était la LMR. Disons que sous les mots d'ordre unité d'action, tous unis contre la répression et pour le socialisme, il y avait beaucoup plus de guerre tribale que de guerre de classe. Ça, c'est un héritage aussi de plus de guerre tribale que de guerre de classe. Donc, c'est de guerre de chapelle ou de guerre d'église. Ça ressemblait beaucoup plus au début de la réforme qu'aux prémices d'une révolution.
Mais là, tu parles de Genève.
Et là, je parle de Genève, oui, parce que... Bon, après, je suis parti ailleurs. J'ai un peu bougé. Je ne sais pas, c'était peut-être... Peut-être qu'il y a un microclimat local.
Non, je pense que c'était en Suisse romande, parce que ça, c'est intéressant dans les témoignages, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est les contrastes qui existent entre la
Alors,
Suisse
romande. Alors, il y a probablement de gros contrastes aussi entre la Suisse romande, parce que...
Mais y compris dans la Suisse romande aussi.
Oui, parce qu'il y a, à Genève et dans le canton de Vaud, on a un parti du travail, un POP, qui existe encore. Ou qui fait encore semblant d'exister, mais enfin qui formellement existe encore. Alors qu'il a...
Ils ont encore des députés.
Ils ont encore des députés, ils ont des conseillers nationaux, ils ont des organisations sociales qui leur sont liées, le SATU, c'est la VIVO. Donc ils ont encore une puissance, une capacité. Donc, en Suisse allemande, il n'y a plus. En Suisse allemande, on a les ports.
Oui, il y avait les ports, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les copains...
Il y a la gauche du PS.
Avec les Verts aussi.
Il y a les Verts qui apparaissent.
Avec les ports. Visiblement, c'était moins sectaire et c'était plus contrasté.
Et puis à Genève, on a reproduit les sectarismes français.
Oui, je pense.
Alors, quand j'ai l'impression qu'en Allemagne, si on fait abstraction des organisations de lutte armée, de la fraction armée rouge, etc., il y a une scissiparité, une capacité de faire scission qui est un peu plus, moins développée qu'en France, y compris d'ailleurs au sein des mouvements trotskistes. Et que par conséquent, en Suisse romande, comme on a tendance à fonctionner par réfraction de ce qui se passe en France, on a beaucoup investi dans les guerres entre organisations. Puis il faut juste ouvrir, il y avait aussi au Tessin le Parti Socialiste Autonome, PS, qui s'était créé, lui, à partir d'une scission du PS et qui a fini aussi par rejoindre le PS. On oublie. Et au Tessin, le 68 a été une année aussi de mobilisation et d'assez forte contestation. Il y a eu l'occupation du lycée, de l'école normale.
Juste là, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doit présenter en livre ou on a fait le tour ? Okay. Ouais, moi, j'ai juste envie de reprendre, parce que je pense que c'est le moment de lancer un peu des discussions, parce qu'on a bien écouté. C'était vraiment fascinant de vous entendre tous. Moi, juste un point que j'ai envie de réagir, c'est sur le choix de rejoindre le Parti Socialiste. Comme étant la seule, tu sembles dire qu'il y a une seule alternative à rejoindre sur ce concept.
J'ai résumé.
Oui, oui. Mais tu sembles dire que la seule façon de pouvoir agir, c'est en étant en rejoignant un parti.
C'est ce que je veux, des coups.
Mais il n'y a pas peut-être.
Non, c'est ce que je me disais en 77.
Il y a peut-être possibilité quand même. Mais encore aujourd'hui, tu avais l'air de dire que c'était encore un peu le choix qui était devant toi. Parce que il me semble qu'il y a quand même une société civile qui existe. Oui. Il y a une alternative quand même pour agir qui est...
J'ai beaucoup résumé. Parce qu'en plus... J'ai beaucoup résumé. En plus, il y avait aussi la possibilité d'essayer de créer un parti nouveau ou une organisation politique nouvelle qui n'existait pas. Mmh. On avait essayé avec quelques copains ou camarades de créer un truc qu'on avait appelé le Parti Social. Il y avait le Parti Sans Payer. Mais le Parti Sans Payer, ce n'était pas vraiment une organisation qui avait une vision d'avenir. Alors, on l'avait créé avec l'artiste 3. Et on avait créé un truc qui s'appelle Parti Socialiste pour l'Unité Populaire, qui voulait être un truc à la gauche du PS, pouvant rassembler ce qui était un peu le projet de solidarité, mais 10 ans après.
Justement, pourquoi pas solidarité ? Pourquoi c'est pas là ?
Parce que j'étais déjà au PS, donc.
Tu ne changes plus, quoi.
À partir d'un certain âge, il y a une forme de sclérose politique. Et puis je me suis aperçu que qu'est-ce que je fais plus à solidarité que ce que je fais au PS ?
C'était juste une question.
Est-ce que j'y serais plus libre ? Est-ce que j'y serais moins libre ?
Tu serais d'une assez grande liberté à voir ce que je vois ces derniers
mois. Bah oui, mais qu'est-ce que ça change là ?
J'ai juste pas qu'on dérive vers les...
Mais voilà, donc, il y a effectivement la société civile, et puis il y a le mouvement syndical.
Oui, voilà.
Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il fallait adhérer ou pas à la partie politique ?
Voilà.
Et à partir du moment où j'avais répondu oui, il faut adhérer à la partie politique, lequel ? Est-ce qu'on en crée un nouveau ? Et qu'est-ce qui reste après élimination ? Mais ça, c'est le PS.
Je voudrais juste... Par rapport, tu as juste parlé de l'Allemagne. Moi, j'ai milité en Allemagne en 69-70. Effectivement, je suis arrivé là-bas où nous, à Genève, on avait différentes variétés du communisme. Le communisme italien, du PCI, le communisme du PCF, le communisme espagnol, qui avait quand même était des variétés. On avait le trotskisme, etc. Et moi, je suis arrivé au Socialistische Studentenbund, qui était l'organisation d'extrême gauche, si on veut, à Heidelberg, la plus puissante, on ne connaissait pas ces courants. C'est-à-dire que les divergences elles n'avaient pas été concrétisées par des mouvements. Et c'était mon grand étonnement aussi de voir qu'il y a une configuration qui était très différente de la nôtre.
Oui, ici, il y avait une divergence, on créait une organisation. Il y a une divergence sur un point, généralement des points importants, mais au lieu de débattre à l'intérieur d'une organisation qui rassemble, on crée une organisation. Il y a trois organisations Mao, trois organisations trotskistes, deux organisations socialistes.
Très court, après on laisse la parole à d'autres.
Je ne sais pas si la discussion sur les organisations d'extrême gauche est la plus intéressante du point de vue de l'héritage de 68.
La plus folklorique.
Personnellement, je l'ai laissé un petit peu de côté. Dans mon bouquin, j'ai plutôt mis en avant les valeurs communes qui animaient les militants de 68 plutôt que les divergences idéologiques plus ou moins bien digérées. Par contre, il y a un truc que tu as dit qui me paraît, qui ne me convainc pas. C'est un thème qu'on lit souvent dans la presse, c'est-à-dire que 68 est responsable
de ce tournant libéral.
Ah, je n'ai pas dit qu'il en était responsable. Hein.
Non, je pense qu'il faut vraiment.
Il l'annonce.
Il l'annonce.
Ouais. Il l'annonce. Non,
je pense qu'on est encore en 68 dans une société qui est vertébrée par les grandes usines en France, en Italie.
Et
les grands syndicats. Et même à Genève. Oui, les grèves de la métallurgie, etc. Ce qui change fondamentalement, et c'est en dépit de 68, c'est pas 68 qu'il annonce, ce qui change en dépit de 68, c'est la victoire, la transformation totale du système capitaliste, la disparition des grands centres de production, ce qu'on appelait le Fordisme, etc. Et puis, alors peut-être ça existe en Chine, on verra. Mais ici, on vit une société éclatée, individualisée, de plus en plus, etc., etc. Donc, l'idéologie, pour moi, ça n'a jamais été d'abord les idées transmises par les médias ou par... c'est le mode de vie dans lequel on se trouve qui forge la façon de se représenter le monde. Et on a changé de société. On est dans une société... moi, je dis, il y a deux choses qui ont disparu dans le monde actuel ou qui se sont atténuées fortement. C'est le sens du collectif et c'est le sens de l'histoire. C'est l'aplatissement dans le présent et l'individu.
Mais ça, tu le vois déjà en 68.
Et ce que certains appellent l'égo-grégarisme. C'est-à-dire, on croit qu'on s'individualise, mais en fait, on est totalement grégaire dans son individualisation.
Oui. Je voudrais juste ajouter quelque
chose. Tu le vois déjà en 68. C'est la faute à 68.
Non, c'est pas la faute à 68.
68, c'est une expression de...
68 l'annonce.
C'est une expression de...
Moi, je ne pense même pas que c'est une expression de 68. 68 est encore porteur de valeurs collectives qui sont issues de l'histoire du mouvement.
Non, on est en porte-à-faux.
C'est comme ça que j'ai vécu. Je vous dis ma vérité à moi.
Ils sont déjà une nostalgie.
Mais la société va changer à partir du milieu des années 70, va s'accélérer dans les années 80. Tu l'as dit, les années fric, c'est les années 80, les années Mitterrand. C'est pour ça que... Le Parti Socialiste, pour moi, c'était un repoussoir, justement, dans cette période-là. C'était Tapie, c'était...
Tapie, c'est
un peu... C'est les années 80. Du tournant du PS. Et là, s'exprime fortement la nouvelle réalité, c'est-à-dire enrichissez-vous, chacun pour soi, etc. Et moi, c'est un anti-68, pour moi. C'est pas 68 qu'annonce.
C'est la fin. Je peux juste donner une donnée concrète. Dans les années 60, on a encore deux tiers entre le secteur secondaire, c'est-à-dire la métallurgie, l'industrie et tout ça, et le secteur primaire, la construction.
Ah, pas à Genève.
À Genève, oui.
Ah, non, mais non, on est déjà à Genève.
On a démoli la métallurgie genoise, qui était quand même le fief du Parti du Travail et de la gauche. On l'a démoli dans les années 70, dans deux temps. Premier temps, on a déplacé les centres de décision à Zurich. Et puis ensuite, on a liquidé Tavaro, Lassip, tous ces trucs, etc., ont été liquidés en 10 ans. Sécheron ont été liquidés en 10 ans. Et à partir de là, le Parti du Travail, par exemple, ou bien la gauche, nous, on était militants du Parti du Travail comme étudiants, hein, c'est comme moi, j'avais 20 ans, et il n'y a plus la base qui existe, n'existe plus. Parce que l'usine, elle a quand même créé historiquement au 19e siècle ces mécanismes de solidarité, ces mécanismes d'être ensemble, etc. Et on va actuellement à la vitesse grand V vers une ubérisation. Et ça, c'est encore une autre donnée du problème.
Mais je vais vous couper parce qu'on aimerait que tout le monde s'exprime.
68, c'est pas les usines.
68, c'est les bavards.
68, c'est pas les usines.
On savait avant de s'élancer.
68, c'est plus les usines, c'est pas les usines. Donc on est déjà plus en 68 dans la société de la grande usine qui descend dans la rue. Les premiers qui descendent dans la rue, c'est pas les ouvriers. Les ouvriers suivent après la répression du mouvement. Mais le mouvement est déjà plus lancé par la classe ouvrière. On est déjà plus en 68.
Non, mais les 68ards sont très tournés vers la classe ouvrière.
Ah oui, non, mais ils sont, très tournés vers la classe ouvrière, ils sont très tournés vers la mythologie révolutionnaire du 19e et des années 30, mais la société dans laquelle ils sont est déjà plus celle-là. C'est pour ça que je dis que 68 annonce...
La grève générale française.
Oui, la grève générale, par exemple. La grève générale, elle aboutit pas à un changement de régime, elle aboutit pas à un changement de structure, elle aboutit pas à un changement de société, elle aboutit à des augmentations de salaire.
En 36.
Non, mais celle de 68.
elle aboutit pas à un changement.
Okay. Pour ceux qui n'ont pas pris la parole, est-ce que vous avez des commentaires,
des questions,
des impressions,
des réponses,
des contestations,
des témoignages.
Laissez pas la place à tous ces bavards, ce serait dommage.
Parce qu'ils l'apprennent après.
Oui, ça c'est sûr.
Non, mais il y a quand même quelque chose, c'est vrai. Ça. Vous l'avez presque tous dit, j'ai l'impression. C'est qu'en mai 68, il y avait vraiment ces différents groupes avec des identités assez fortes et qui se combattaient pour des raisons plus ou moins, on va dire, plus ou moins valables et égotistes. Et j'ai l'impression que 50 ans après, les chapelles sont moins présentes en tant que telles, en tout cas avec des noms définis, mais que finalement les querelles d'ego, elles n'ont pas disparu. C'est comme si on n'avait pas forcément gagné en clarté, parce que si on avait un nom et des groupes différents, on savait à qui appartenait, peut-être pourquoi, ou peut-être que ça cachait juste des questions d'ego, mais c'est comme si aujourd'hui finalement les querelles d'ego, elles sont toujours là avec la... sous un couvert peut-être plus flou encore, en tout cas, de comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on a échappé, on a un peu mis les chapelles de côté. C'est moins important aujourd'hui de se dire Mao, Trotsky, ça n'a plus beaucoup de sens, mais que le fond du désaccord, il est resté malheureusement. C'est presque aussi un aveu d'échec.
Je voudrais juste dire une chose sur le sentiment. C'est que à l'époque de mai 68 jusqu'en 73, qui est la première crise pétrolière, il y a un immense optimisme. Ouais, les jeunes sont non seulement pour la liberté, mais sont pour la solidarité, sont pour la fraternité. Et c'est ces deux éléments qui vont disparaître à partir de la première et deuxième crise pétrolière, où il y a un basculement, ce que Jean définissait tout à l'heure, il y a le basculement qu'on va appeler le néolibéralisme, c'est-à-dire la dissolution du sentiment d'appartenir à un collectif. Alors ça peut jouer aussi pour la droite, pour la gauche, mais c'est et où on va vers l'ubérisation. Là, je trouve que c'est beaucoup... L'ubérisation, c'est que c'est le travail à la demande, on ne rassemble plus les gens, on peut travailler chez soi, etc.
Mais quand tu dis les jeunes de 68, je trouve que tu globalises quand même beaucoup. Parce que pour quelqu'un comme moi, qui venait en l'occurrence pas d'un milieu ouvrier, comme ceux que vous avez écrits, mais d'un milieu bourgeois, et qui avait été élevé dans ce cadre-là, qui avait rompu parce que j'étais devenue comédienne, c'était pas accepté, d'autant plus j'étais partie en Europe de l'Est, donc j'étais vraiment en porte-à-faux. Mais franchement, quand je pense en tout cas à tout ce milieu relativement large, au-delà de moi, que je continuais à voir d'un peu loin, je ne dirais pas les jeunes étaient dans le collectif, etc. Je veux dire, il y avait quand même des relations de classe qui existaient en 68 au sein de la jeunesse, il ne faut pas les nier non plus. Elles expliquent aussi la manière dont le néolibéralisme a pu se développer par la suite. Parce que si on avait eu toute une classe... de jeunes qui avaient été de manière univoque et uniformément inscrites dans des perspectives collectives, on pourrait difficilement expliquer comment le tournant s'est fait aussi rapidement à la fin des années 70, à partir du moment où le chômage a commencé à exister.
Ils ont beaucoup résisté, ces jeunes de 68. C'est un truc que j'essaye de développer. Il y a quand même une rentrée d'une partie de ces jeunes qui quittent les organisations politiques dans les syndicats. C'est quand même, par exemple, en Suisse alémanique, dans les témoignages LMR, c'est très important.
Oui, mais là, tu parles des militants. Disait la jeunesse. Alors ça, c'est autre chose.
Oui. Je me permets, c'est pas ce que je disais. Je disais que dans l'expression des mouvements de contestation, comme on les appelait à l'époque, il y avait une bienveillance à l'égard de liberté des gens, une solidarité. C'est ça que j'expliquais. C'est pas les militants, c'est l'expression, ceux qui s'exprimaient dans les manifs, les gens qui défilaient avec les comités. La solidarité avec les mouvements de libération, à tort ou à raison, mais avec les mouvements de libération, la solidarité voulue, par exemple, des étudiants qui voulaient se solidariser avec les ouvriers, à tort ou à raison, ça se discute, mais ce mouvement, il existait. Et il s'est éteint d'une manière très brusque, vers 1973, la première crise qu'on appelait pétrolière, il s'est éteint quand même assez rapidement, au bout de 5 ans, si on veut.
Alors là, je ne serais pas non plus aussi radical.
Non,
la manière de décrire les choses en 35 ans. Mais bon, moi, ce à quoi j'en
dirais, c'est que ma jeunesse en général,
je suis d'accord avec ce qu'on dit. Quand 68 est une plateforme pour un engagement d'individus dans des activités collectives et qui ne soient pas seulement des partis, mais notamment, comme tu le dis, les syndicats, mais pas seulement dans l'associatif, ça ressort très fort parmi les 110. C'est que la plupart, ils ont une activité quelconque aujourd'hui. Vraiment, la plupart, je dirais les 3, 4, 5e.
Ça reste du collectif.
Oui, parce qu'on a vécu quelque chose où on ne se sent pas de rester comme ça totalement passif. Bon, moi, je reste féministe. Pas très actif parce que mais je suis dans le machin papyrus, enfin bref, je prends. La plupart d'entre nous, de ces 110-là, ont des activités collectives précisément parce qu'ils ont été marqués par ça. Maintenant, que ça a été le cas de la totalité de la société, là-dessus, j'ai davantage de doutes parce
c'est
que sinon.
C'est pas ce que
ni de la totalité de la jeunesse de l'époque qui a regardé passer 68.
Non, c'est pas tout à fait juste. Moi, je dirais, si on veut quantifier, je dirais les militants politiques de 68, ça devait être en Suisse, en tout, en comptant large, quelques milliers de personnes.
Oui, en comptant large, alors.
Ceux qui ont passé à travers la. La LMR, par exemple, ça doit être en tout cas un bon millier de personnes. Il n'y en avait jamais 1000 en même temps. Mais donc, je dirais que, c'est quelques milliers de personnes.
En Suisse romande ?
Non, la Suisse, en Suisse.
Toute la Suisse, seulement quelques milliers de personnes.
Je finis juste mon raisonnement parce que c'est des poupées russes. Il y a quelques milliers de personnes, c'est l'univers militant engagé dans les groupes politiques. Je pense quelques dizaines de milliers de personnes ont milité dans des formes associatives, ont été dans des manifs, etc. 68. Donc, quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Mais ce groupe-là a eu une influence et un impact sur toute la société. Et c'est ça qui lui a donné ce sentiment de force et de puissance. C'est que aujourd'hui, le fait d'être en phase, ces gens se sentaient en phase. La phrase de l'histoire m'acquittera, on aura raison demain, c'était évident pour ces gens. On aura raison demain parce qu'il faut partir avec même peu de moyens, les mains nues, s'engager, et puis on va changer les choses. Cette idée-là était très forte. Et elle convainquait même pourquoi ils avaient peur de nous. Ça, c'est l'autre problème. Pourquoi ils faisaient des fiches? Pourquoi ils mettaient des micros dans le congrès de la LMR? Pourquoi? Ça paraît...
Avec les pots.
Oui, à épalinges.
Épalinges, voilà.
Donc, il y a quelque chose d'un jeu à deux où nous, on se croyait en train de monter en puissance vers la transformation de la Suisse. Moi, disons, franchement, en Suisse, je crois qu'on n'était pas très nombreux à penser qu'on allait faire la révolution. En revanche... que la révolution a été possible en Espagne avec la chute du franquisme.
Au Portugal, elle a été quand même.
Il faut quand même se souvenir, ça c'est des phénomènes. Si vous regardez le Chili avant la chute d'Allende, les manifestations, regardez des films, le Portugal des œillets, la grève générale française. L'automne chaud italien, c'est quand même des phénomènes, il faut arrêter de relativiser. C'est des phénomènes que les historiens traitent comme des phénomènes de mobilisation de masse. On n'a pas rêvé. Après, ça a basculé.
On est obligé de différencier les pays, par exemple l'Italie, Avanguardia Opera et ces mouvements.
C'est énorme.
Ils craignaient, le terrorisme a cassé les mécanismes.
77,
et c'est extrêmement important, mais ils pensaient qu'il y aurait un coup d'État fasciste dans les années 70. Ils étaient mobilisés en préparation de ça, Et ce n'est pas du tout la même chose en Allemagne, ce n'est pas la même chose en France.
De vue des mouvements collectifs, il y a eu tout de même tout le mouvement féministe,
le mouvement
de libération des femmes, qui était un mouvement très collectif, avec aussi beaucoup de disputes, mais c'était...
Il y a toute la scène culturelle alternative qui revient aussi.
Oui, il y a LGBT.
Et puis c'est le féminisme, c'est un acquis qui existe encore aujourd'hui.
Je voudrais juste signaler.
Ça tombe bien, ça tombe bien, parce que je ne sais pas jusqu'à quand on va continuer à parler, mais une discussion, c'est un début, une fin, et puis ça fait quand même plusieurs heures qu'on discute ensemble. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est que ça prenne la tournure que ça prend maintenant. On va avoir plein de personnes qui vont nous écouter dans les podcasts. Ne sous-estimons pas le nombre de personnes qui vont écouter ce qui est dit ce soir. Et j'aimerais bien qu'on termine pas une note positive nécessairement, mais sur un retour sur aujourd'hui, sur comment, quel legacy est laissé de tout cela, quel héritage, et qu'est-ce qu'on peut faire de tout de quelle suite vous voyez de tout cela.
Moi, je voudrais signaler que le plus grand acquis historique, c'est le féminisme. Et on ne le trouve pas en Occident, mais on le trouve en Iran, on le trouve parce qu'ils sont brimés, mais on le trouve, par exemple, si on prend le taux d'alphabétisation, c'est extrêmement intéressant. Les femmes iraniennes, derrière leur voile, elles se cultivent. Hein. Si je prends, par exemple, le taux de maturité en Suisse, on a un clivage à partir de 1991-92 où on a un taux plus élevé de filles qui obtiennent des maturités que des garçons. Et puis cette réalité, on ne la trouve pas seulement dans notre Occident, mais on la trouve aussi dans d'autres pays. Et ça, c'est un phénomène de très, très grande amplitude et qui est très important, à mon avis.
Moi, je dirais... Pardon, tu voulais...
Non, oui, enfin, c'est tout à l'heure ce que je disais. Ça, c'est vraiment une lame de fond, ouais, qui a non seulement balayé l'Occident, mais comme tu dis,
en Iran,
même dans des pays où les femmes sont extrêmement brimées, il y a vraiment des mouvements qui voient le jour. Et je pense que ça...
Est-ce que c'est un héritage de 68?
Non,
je pense que c'est un héritage de 68. Alors c'est quoi?
Parce que 68 était. Est-ce que tu le trouves en Iran?
Mais attends, il a bien un début.
Il a un début, le mouvement féministe, il commence.
En 69.
Non, il commence à la fin du 18e.
Ah, 19e, c'est qu'on est bien d'accord. Non.
Mais 68 est un mouvement profondément machiste. C'est une
remarque. D'accord, mais il est issu de 1968.
Évidemment que ça. On peut dire que tout ce qui se passe après 68 est un héritage de 68.
Non,
mais je ne crois pas que
les années 68, on prend une période, on ne s'en parle pas à l'année 68.
Non. Oui, excuse-moi, Pascal. Par exemple, à Paris. Le début du MLF, c'était justement un groupe de femmes qui en avaient marre de constater que dans les réunions politiques, c'était comme d'habitude toujours les hommes qui prenaient la parole et les femmes qui faisaient le café. Elles en avaient marre et elles ont... moi, j'ai revu récemment, c'est un film extraordinaire. Toutes petites dans un coin, elles ont été demandées une salle, réserver une salle, il fallait s'inscrire.
Dans le film Debout.
Elles pensaient être 10. La salle était pleine. Et ça, mais c'est vraiment la source, c'est, mais, si tu veux, comment te dire ça, une réaction à ce que c'était. Mais c'est, alors véritablement, c'est issu de 1068.
Issu, non, mais 68 est une expression.
Attendez, moi je pose le problème autrement. Je dis 68 a posé le problème de la dialectique des libérations. C'était la formule qui était utilisée, c'est-à-dire que les luttes sociales, les luttes de libération du tiers-monde, les luttes des femmes, les luttes culturelles, etc., ne doivent pas être hiérarchisées. On ne doit pas dire... après la révolution, vous aurez peut-être l'occasion d'améliorer votre situation, mais pour le moment, restez tranquille. Les luttes des homosexuels, les luttes des... Bon. Cette vision-là que certains appellent aujourd'hui l'intersection, l'intersectionnisme, l'intersectionnalité, etc., c'était une combinaison des luttes de différents secteurs qui allaient vers l'émancipation humaine. Et ça, c'était évidemment sous le choc des luttes de libération du tiers-monde et du féminisme. Parce que les deux, c'est Fanon qui commençait à dire quand on se libère, on doit aussi se libérer de l'image que les autres ont donnée de nous-mêmes. Nous, les Noirs, on porte un masque blanc. Et les femmes ont commencé à dire il faut aller beaucoup plus loin que le droit de vote.
Elle le disait déjà avant.
Non,
mais oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil.
Je pense de manière beaucoup plus radicale et dans une période où toutes ces luttes se conjuguent et ça va. Alors ça, c'est l'idée, la conjugaison des luttes.
Et puis, la deuxième idée qui me paraît importante comme héritage de 68, c'était une vision internationale, une vision globale, une vision qui n'était pas enfermée dans un coin du monde, qui essayait de réfléchir aux relations nord-sud, à ce qui se passait à l'est, aux phénomènes d'ensemble. Et puis le troisième élément, moi je vois trois choses qui sont des héritages qu'il faut cultiver, c'est la radicalité. Radicalité au sens d'aller à la racine des problèmes et pas de rester... parce qu'aujourd'hui, dans la politique, on a le nez dans le guidon, on suit la prochaine initiative, la prochaine votation, le machin. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter de suivre toujours l'agenda politique tel qu'il est indiqué par les institutions et puis se poser des questions sur la racine, la source des problèmes. Et ça, ça a été, je pense, une des grandes qualités de la période.
Ah, moi, je serais d'accord de dire que la période, c'est une convergence de luttes qui auparavant était divergente et que ces luttes convergent à la fin des années 60 et au début des années 70, que toutes les luttes que tu as évoquées convergent.
Il y a quelque chose qui a été dit avant et qui vous rassemble d'une certaine manière, c'est que 68 a fait sauter des carcans.
Oui.
Et c'est vrai que du moment qu'il y a un carcan qui saute, il y en a plusieurs qui sautent avec. Et du coup, c'est vrai, bien sûr qu'il y a une influence de l'un à l'autre. Ça, il y a eu des prémices, il y a eu des choses avant, mais c'est assez positif par rapport à aujourd'hui. Comme tu le disais, Alexandre, si on fait un lien, c'est qu'on voit, si on arrive à faire une brèche dans quelque chose, ben souvent, il y a beaucoup plus de choses qui s'engouffrent dedans que ce qu'on avait prévu au départ et qu'on ne peut pas prévoir forcément ce qui va en sortir. Et je pense que mai 68, ça a été dit, c'est plusieurs choses qui ont sauté et qui ont permis à plusieurs choses de s'extraire de là, que ce soit le féminisme
et pas mal de choses. Attention de
et malheureusement, juste le politique.
Et ça a radicalisé des luttes qui étaient déjà présentes. Voilà,
attention de ne pas inverser la causalité. Moi, je suis en train de faire une étude sur la Suisse, par exemple, sur le taux de scolarisation au niveau secondaire et même tertiaire, et je constate que même en Appenzell, donc les pays qui ont voté, qui n'ont pas de mouvement féministe, et qui ont voté contre le droit des femmes en 1971, même dans ces pays, on a une inversion de la tendance, et on a au niveau secondaire, la rupture c'est autour de 91-92, même dans ces cantons, on a une majorité de filles aux études secondaires de type maturité, par exemple. Et ça, on ne l'a pas seulement en Suisse, on l'a en Europe, mais on n'a pas seulement en Europe, on a dans des pays, et c'est ça qui pose problème, si on prend les études d'Emmanuel Todd, par exemple, il observe que le taux de fécondité, par exemple, en Iran, qui est un indice extrêmement important, parce que c'est la maîtrise de la femme sur ses rapports sexuels et sa fécondité, il est en chute libre, par exemple, en Iran, il est en chute libre dans certains pays où il n'y a pas de mouvement qui peut s'exprimer ouvertement. Donc il faut voir qu'il y a quelque chose de très grand
au niveau de l'éducation
qui nous donne de l'espoir. Moi, je veux dire, ça nous donne de l'espoir.
Et en chute libre à Genève, dès le 16e siècle, parce que les femmes ont commencé à être
très visibles. Oui, tout à fait.
Mais quel est le lien avec la causalité dont tu parlais? Comment tu fais le lien entre les deux?
Mais je dis qu'il y a un mouvement de très grande amplitude et que mai 68, y compris nos croyances, nos militants, notre militantisme, il a été une expression de quelque chose de très profond qui se passait. Et mai 68, c'était le moment où il y avait une accumulation de toutes les années 50, et c'était le moment d'une rupture où tout à coup la digue elle pète. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui avons créé, on est très contents si on le croit, c'est pas nous qui avons créé tout ce mouvement, nous l'avons accompagné. Mais le mouvement, il est plus ample, il est plus large.
Et puis il est plus ancien.
Oui, est plus ancien. C'est ça que je voulais dire, exactement.
Mais en même temps, il est contraint, parce que la féministe de 50 ans que je suis, la féministe donc, pas la personne de 50 ans. Quand elle regarde à la fois le taux de scolarisation, le taux d'achèvement des études, et les différences de salaire, et le taux de part de responsabilité des femmes dans les divers secteurs, et les reculs en matière d'avortement dans toute une série de pays autour de nous, ne sauraient traiter la question comme si on était sur une voie royale.
Ah oui,
mais c'est pas ce qu'on dit, Jacqueline.
Mais c'est la même chose pour toutes les luttes qu'on a évoquées. Hein. Parce que tu as des régressions dans tous les domaines, donc on est effectivement...
Mais la régression en cours, sur le plan politique, suscite une nouvelle vague, disons... Si aujourd'hui on peut dire que s'il y a quelque chose qui est un signe d'espoir, c'est les mobilisations féministes. Argentine, Chili, États-Unis,
Pologne,
Espagne, Pologne. Bon, évidemment, contre des retours ultra-réactionnaires.
En Irlande.
Contre des retours ultra-réactionnaires.
En Irlande, qui a voté à 70% pour l'avortement.
C'est intéressant, ouais. L'Irlande.
Ça, c'est extraordinaire.
Absolument.
Mais je suis d'accord avec
ça. Vous avez vu, il y a eu des mobilisations extraordinaires il y a 2 ans. Et puis bon, je veux dire, on est devant une nouvelle proposition d'entériner ce qui était proposé au moment où elles sont descendues dans la rue. Et il n'y a pas nécessairement ensuite la même possibilité, capacité de redescendre parce qu'on est dans un climat général politique qui est vraiment extrêmement réactionnaire sur ces points-là en particulier.
Alors, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, le 14 juin 2019, il y aura une grande grève féministe dans toute la Suisse.
Génial.
2019.
On est en train de s'organiser. Hier soir, il y a eu la première réunion. Nous étions plus de 100 pour lancer un mouvement en 2019 parce que depuis 1991, les choses n'ont pas assez progressé.
Notamment le salaire, il a à peine évolué la différence de salaire entre hommes et femmes. Et puis, Berset, il nous remet la retraite à 65 ans, mais si au moins, parallèlement, il disait pour autant que les femmes gagnent la même chose, pour autant. Et ça va de nouveau pas passer s'ils mettent pas ça en parallèle. Ça va de nouveau être rejeté, moi je vous fous mon billet.
Merci.
Non, en tout cas, on aurait pu, mais
là,
on
aurait pu.
Juste corriger quelque chose, je m'excuse, c'était pas Bled, c'était Grevis. Si jamais.
Ah oui, Bled,
c'est Grevis, c'est dicté. Si jamais, on peut corriger.
Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.